Bonsoir.
Bonsoir.
On est content d'être avec vous pour cette fin de semaine. On ne dit pas le week-end, on dit la fin de semaine ici. Avec Christelle, on vient de l'Europe. Moi, je suis nouveau migrant. Je viens de m'installer à Montréal depuis le mois de novembre. Donc, je suis tout nouveau arrivé avec ma famille. J'ai 4 enfants. Mon épouse est américaine. On s'est mariés en 1996. C'était le siècle d'avant. Et j'ai un aîné qui a 24 ans, qui lui s'est marié en juillet l'année dernière. Et vous pouvez prier pour lui, remplir un dossier pour faire une maîtrise à HEC Montréal en gestion organisationnelle. Il a un cœur avec son épouse d'aller servir Dieu, particulièrement auprès de l'Église persécutée. Depuis qu'il est tout petit, il a à cœur la Chine en particulier. Il est parti quand il avait 17 ans faire un séjour en Chine pendant 3 semaines pour voir ce que Dieu voudrait qu'il fasse là-bas. Ma deuxième, elle est à Édimbourg, en deuxième année à l'université d'Édimbourg, en psycho et philosophie, une double licence. Elle est passionnée par la neuroscience. Et puis j'en ai les deux petits, comme on les appelle chez nous. Le tout dernier, il fait 1m85, donc il n'est pas si petit que ça. Hein, voilà. Lui, il est en première. Et puis ma numéro 3, elle est en terminale. Voilà. Et donc ils sont avec nous au lycée Marie de France à Montréal. Je te laisse te présenter.
Alors moi, je ne suis pas un migrant de fraîche date. Je suis au Québec depuis 6 jours. Et je repars après-demain.
Donc il arrivait avec un ballon d'espion chinois.
Voilà.
Et il s'est fait abattre par l'armée canadienne. Et donc on l'a récupéré dans le champ.
Ouais. Voilà, donc c'est la deuxième fois pour moi au Canada, la deuxième fois au Québec. La première fois, c'était déjà au Québec. J'ai eu l'honneur de visiter la province d'Ontario cette semaine. Donc, j'ai un petit peu bougé dans le pays. J'ai pris mon vol depuis Bruxelles, qui est ma ville d'adoption. J'ai grandi en Belgique. Je suis né au Cameroun, mais j'habite maintenant en Allemagne. Jusque-là, vous me suivez. Voilà. Je suis papa depuis 3 mois. On a accueilli un petit garçon qui s'appelle Adam et qui me manque beaucoup et que j'ai hâte de retrouver bientôt. Et sa maman et lui sont ensemble chez ses parents qui sont en Allemagne aussi. Mon épouse Victoria est allemande. On s'est rencontrés en Belgique parce qu'elle voulait apprendre le français. Jusque-là, vous me suivez. Et puis, Raphaël et moi, nous travaillons... on se connaît déjà depuis presque une quinzaine d'années, je pense.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Oui, on travaille ensemble pour une association qui s'appelle Imago Dei, une association culturelle qui rayonne sur la francophonie. Et c'est notamment pour ça que je suis venu, et par la même occasion, pour vous rencontrer. Voilà.
imagodei.fr, si vous voulez regarder, faire un petit tour sur le portail. C'est quoi imagodei.fr? En fait, c'est un agrégateur de communautés professionnelles. Ça veut dire qu'en fait, on aide les professionnels à faire sens de leur vocation, pas simplement de gagner de l'argent, mais de comment être témoin du Christ dans leur profession. On a commencé avec les gens de la mode à Paris. Ensuite, on a travaillé dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, dans le monde du business, dans le monde de la politique. C'est la spécialité de Christelle. Il a été pendant plusieurs années le porte-parole de l'Alliance évangélique européenne au Parlement à Bruxelles. Il était lobbyiste pour l'ensemble des évangéliques de l'Europe et il a une carrière en politique qui est tout à fait remarquable. Et donc ça, c'est une de tes passions aussi. Raconte-nous, comment c'est de donner la passion à des hommes en politique, non pas seulement d'être des bons politiciens, mais d'être des bons témoins du Christ via la politique?
Merci pour la question. Il y a deux passions que tu viens de mentionner. Il y a ma passion pour la chose publique, pour les affaires publiques, pour la politique. Qui, en tant que chrétiens, sont un domaine qui, je pense, doit être d'intérêt pour nous. Et puis, de l'autre côté, ma passion pour Jésus, pour sa parole et pour toutes les implications de sa parole dans notre vie pratique, y compris notre vie collective. Et puis par-dessus cela, s'ajoute une question qui est peut-être une question qui va nous concerner cette fin de semaine, qui est comment, lorsque on est chrétien et qu'on a un engagement professionnel ou aux études pour plusieurs d'entre vous, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux ? Parce qu'on n'est pas censé être une chose dans certains contextes et puis une autre dans d'autres contextes. Il y a un trouble psychologique qui désigne ce type de comportement, on appelle ça la schizophrénie. On n'est pas invité à être ce type de chrétien, on est invité à être une seule personne en toutes circonstances. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Et depuis que j'ai commencé moi, ma vie professionnelle, c'est une question qui m'a habité et que j'ai emmené dans divers moments en fait, de ma carrière professionnelle. On pourra en discuter notamment demain matin. Voilà.
Moi, j'ai découvert les GBU quand j'étais à la fac. C'était déjà il y a très très longtemps. J'ai fait une première carrière en économie à Strasbourg. Et on avait un groupe biblique universitaire qui n'était pas très cachère. On faisait pas trop de OIA, nous. Hein. Nous, on avait déjà un groupe de louanges avec une trentaine de musiciens. On faisait beaucoup, beaucoup de bruit. C'était une fac des sciences humaines qui était connue pour son mouvement trotskiste. Ah. Et donc, on avait des punks qui venaient avec nous au GBU. C'était assez... On faisait des ateliers sur la délivrance. Jusqu'à un jour, il y a quelqu'un quand même qui est venu de Paris parce qu'il avait entendu qu'il y avait un groupe de jeunes de 200 étudiants à Strasbourg. Puis il nous a expliqué quand même qu'on n'était pas très cachère. Puis on lui a dit, tu peux rentrer à Paris, c'est pas grave. Donc ça, c'était moi quand j'étais animateur du GBU. J'étais extrêmement rebelle. Je ne connaissais pas trop grand-chose au GBU, surtout rien à OIA. Et puis finalement, j'ai entamé une deuxième carrière en tant que théologien. Et puis plus tard, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé beaucoup avec le GBU. Je suis devenu référent du GBU dans la ville de Tours. Et une de mes préoccupations, c'était en particulier de lever des évangélistes parmi les GBUciens. On avait lancé à l'époque un programme qui s'appelait R2E. Et donc, on regardait un peu les vocations de ceux qui avaient cette passion de l'évangélisation parmi les GBUciens et qui étaient prêts à faire des choses... Ouais, y compris en dehors de OIA, vous comprenez. Et on a vécu des choses super. On a pu, entre autres, faire un partenariat avec le Forum Veritas, qui était un mouvement qui a démarré sur le campus de Harvard. Et on a démarré nos premiers Forum Veritas à l'époque, en 2008. Et ça, je vous le dis ça à l'époque, quand on a commencé cela, moi, je suis venu avec une vision forte après mes études de théologie. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on laisse des professeurs, des universitaires, des athées dire des choses vraiment débiles sur le christianisme, sur Jésus, sur des choses comme ça, sans que nous, on n'ait pas un droit de réponse. Hein. Et donc, on a démarré le Forum Veritas, et le Forum Veritas a été l'occasion pour nous de débattre avec Pascal Bruckner, avec André Comte-Sponville, en fait, tous ceux qu'on entendait à la radio, qui étaient des universitaires, des philosophes, qui se moquaient vraiment passionnément, quoi, je veux dire, du christianisme. Et on est allé les chercher, on a mis devant des théologiens, et on a trouvé des GBUciens qui n'avaient pas peur de monter au créneau, de se former pour... Et on a formé toute une génération comme ça de débatteurs. Et ce qui était super dans ces débats, c'est pas finalement juste le débat en soi, parce que vous savez, quand vous invitez un athée et puis un chrétien à débattre, chacun rentre chez soi, généralement, il n'est pas trop changé. mais ce qui est surtout passionnant, c'était de pouvoir discuter avec eux après le débat, quand on les ramenait à l'hôtel, et puis de se rendre compte que finalement, la foi qui nous animait, c'était pas juste un mythe. Ouais, c'était pas juste... une vue de l'esprit, c'était pas juste quelque chose qui était ancré dans le Moyen-Âge. C'est pas comme si, genre, on avait raté l'info qu'on vit dans la modernité, vous voyez ce que je veux dire. Et ça a mené à des discussions profondes, à des échanges épistolaires avec des grands universitaires, des grands penseurs. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, le défi dans le monde qu'on est. Dans un monde pluraliste, on peut pas se plaindre que les athées prennent la parole parce que c'est normal. En fait, c'est un marché qui est ouvert. On est en pleine concurrence. Par contre, c'est problématique quand l'Église se dit « Ah ben non, mais oui, Bon, évidemment, ça serait quand même bien que quelqu'un dise quelque chose et puis on dit rien. Parce qu'en fait, la société est faite aujourd'hui de mains tendues. Et on a une opportunité, peut-être plus qu'avant, plus que jamais dans l'histoire de l'Église, dans l'Occident, de venir prendre notre part et de dire aussi ce que nous avons à dire. Raconte un petit peu juste ce que tu as vécu ces derniers temps avec JC. On prépare quelque chose d'assez spectaculaire à la rentrée. Raconte un petit peu l'histoire de la collaboration et de la main tendue avec les autres.
Oui. Alors JC, c'est short pour Jean-Christophe, qui est un de nos collègues et qui habite à Montréal, un petit peu au nord, hein, dans une petite ville qui s'appelle l'Assomption. Jean-Christophe porte aussi cette double casquette de la passion pour Jésus et la passion pour la politique. On s'est rencontrés dans le cadre du travail au sein d'Imago Dei. C'était un coup de cœur intellectuel, fraternel et amical entre nous.
Et si vous pouvez les écouter sur un truc, ça s'appelle Sagesse et Morito, c'est un podcast qui fait un carton, ils sont plus que 400 000 écoutes. Et donc JC et Christelle et Léa, un Québécois, un Bruxellois et une Parisienne qui discutent de la foi et c'est assez spectaculaire. Sagesse et Morito, vous pouvez regarder le podcast.
Oui,
cinquième saison.
On ose discuter des sujets qui fâchent, ouais. En les rendant accessibles aussi pour un public qui n'est pas chrétien. Et ce que nous avons fait notamment avec Jean-Christophe cette semaine, c'est rencontrer des personnes de divers parcours. Vous savez ce que Raphaël vous a expliqué, le fait avec l'organisation de ces forums Veritas, le fait de confronter des athées, des chrétiens, mais d'ouvrir une porte pour avoir des dialogues dans les coulisses, c'est quelque chose que j'ai connu aussi, pas dans le contexte des forums Veritas, mais simplement dans le contexte de mon travail, de ce qu'on appelle le plaidoyer politique, où dans certains contextes, je représentais une conception chrétienne de certains enjeux politiques. Mais en dehors de nos réunions officielles, on avait des discussions qui étaient très profondes avec, alors je ne sais pas exactement comment c'est au Québec, mais en Europe, en général, quand on est officiel, quand on travaille pour une fonction publique, on ne parle pas de religion. Hein, on parle juste de droit, on parle d'enseignement, d'éducation, d'autres problématiques, mais on ne parle pas de religion. On ne pose certainement pas des questions personnelles à propos de la foi. Détrompez-vous. Les personnes les plus fermées, les personnes qui sont même conditionnées et limitées par leur environnement professionnel, les personnes qui appartiennent à des institutions, voire des familles, qui disent non, on ne touche pas à ces questions de la religion, de la foi, sont ravis de pouvoir discuter des choses profondes. Alors, avec Jean-Christophe, on a passé la semaine à discuter de sujets vraiment très profonds avec des gens qui ne sont pas forcément du même parcours que nous. Et c'est quelque chose que je sais Jean-Christophe va multiplier ici au Québec. Et c'est quelque chose, je sais, que vous y êtes appelés aussi. Que ce soit maintenant dans votre vie d'étudiant ou dans le futur, dans votre vie professionnelle. Et alors, si moi, on m'avait dit ça quand j'étais étudiant, parce que j'ai aussi connu les GBU en étant étudiant en Belgique, les GBU m'ont révélé la grandeur et la profondeur de la parole de Dieu et à quel point elle était pertinente pour ma vie. Mais si à l'époque, on m'avait dit « Ouais, dans ta vie professionnelle, plus tard, tu pourras discuter de la foi », j'aurais été assez sceptique. Mais sceptique avec raison, parce que c'est bien facile pour moi de dire oui, il y a des opportunités, etc., mais je sais que c'est pas simple, c'est pas évident. On peut parfois commettre l'erreur de se dire mais tout ce qu'il faut, c'est raconter le plan du salut à mon collègue à la machine à café, et il va tomber à genoux et confesser le Seigneur et lui donner sa vie. Ben non, pas forcément. Et c'est ça dont on veut parler pendant cette fin de semaine, c'est comment conjuguer notre zèle, notre désir d'être des témoins de Christ, de partager sa parole, et puis les réalités du monde dans lequel nous vivons. Il faut savoir comment le monde dans lequel nous vivons fonctionne pour être des témoins de la façon la plus juste.
Avant de laisser la parole pour la suite, je voulais juste lire un petit passage avec vous ce soir. C'est dans 1 Corinthiens 13. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de mariage ce soir là. Qu'est-ce qui va nous faire un truc sur 1 Corinthiens 13 ? Regardez la fin du chapitre, c'est ça qui m'intéresse. Le verset 12 et 13 de 1 Corinthiens 13. C'est en écho à ce que j'ai entendu dans la prière lorsque j'étais assis au fond. Et je voudrais commencer, j'avais pensé commencer avec autre chose ce soir, mais je pense que c'est là qu'il faut qu'on commence. 1 Corinthiens 13, 12-13, ces deux versets m'ont habité et m'habitent encore aujourd'hui et m'ont aidé à traverser les trois dernières années. Voilà ce que Paul dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Trois choses rapidement dans ce texte. Aujourd'hui, dit-il, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Alors c'est paradoxal parce que les miroirs aujourd'hui, c'est tous obscurs. Vous connaissez qu'à l'époque, dans la ville de Corinthe, on fabriquait des miroirs, mais c'était des miroirs de bronze. Donc, mesdames, c'était tout aussi efficace que de se regarder dans une feuille de papier aluminium le matin et essayer de mettre votre mascara. Bonne chance. Okay. C'était tout sauf clair. C'était des miroirs qui étaient la grande fierté de la ville de Corinthe, mais qui étaient profondément obscurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le texte en grec, ce mot-là, obscur, c'est énigmati. Énigmati. Énigmatique. Et donc Paul dit, aujourd'hui, maintenant, nous voyons les choses, la vie, de manière énigmatique. On voit les choses qu'en partie. Avec quelle énigme vous êtes venu ce soir ? Quelle est l'énigme qui vous habite ? C'est vrai qu'on prenne juste quelques minutes là. Et sur votre téléphone ou sur votre feuille de papier, notez. Quelle est la chose qui aujourd'hui dans votre vie, c'est une vraie énigme. C'est quelque chose qui est obscur, c'est quelque chose qui n'est pas clair, et c'est quelque chose qui vous préoccupe au plus profond. Je vais juste vous donner l'occasion de, sur un papier ou sur vos tablettes électroniques, de le coucher. Avec quelle énigme es-tu venu en cette fin de semaine ? Voilà, prends une petite minute pour cela. Qu'est-ce qui te dépasse ? Pour moi, cette dernière année, elle était profondément énigmatique. Profondément énigmatique. Ça a commencé lorsque mon épouse a perdu sa maman. En 15 jours, elle est partie, l'été dernier, du Covid. Elle refusait de se faire vacciner, pensait que c'était tout ça, quelque chose qui était un agenda politique. Et en 15 jours, elle est partie. Et j'ai mis ma femme et ma fille dans un avion. On a supplié les infirmières d'attendre que mon épouse puisse rejoindre sa maman. J'ai pris un vol de Nice pour aller jusqu'à Philadelphie. Lorsqu'elle a atterri à Atlanta, sa maman était partie. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Énigmatique ? Énigmatique ? C'est absurde de mourir du Covid alors qu'il y avait un vaccin qui était disponible. Whatever, quoi. Et le mois d'après, j'ai appris que ma maman avait un cancer du foie et elle est partie en 40 jours. On a perdu nos deux mamans en 3 mois. Au même moment, dans notre appartement, c'était Bagdad. On a eu 4 infiltrations d'eau du voisin du dessus. Quand tu rentrais dans l'appart, il n'y avait même plus le plafond. Tout était détruit dans l'appartement. Le plancher, magnifique plancher, c'était les montagnes russes. Et on se disait, mais c'est pas nécessaire. C'est... Henri Blocher dit souvent que le mal, c'est l'injustifiable réalité. Et des fois, tu es dans la machine à laver, puis ça tourne, puis tu as un coup d'accélérateur. Tu dis, Seigneur, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça brasse déjà, là. Enfin, c'est absurde, quoi. C'est absurde. C'est énigmatique, c'est complètement énigmatique. Puis on a eu cette invitation de venir au Canada, et donc j'y ai répondu pour reprendre la direction de l'Union des Églises Baptistes francophones. Et on marie notre fils début juillet, on se réjouit, on veut rentrer dans le pays ici le 15 juillet. J'arrive au poste frontière. Monsieur, c'est pas le bon visa. Vous avez le droit de retourner aux États-Unis, vous pouvez pas rentrer. Et aujourd'hui, à chaque fois que je passe la frontière, sur l'écran du douanier, ça flash, personne à risque. Et alors, pour le futur secrétaire général de l'Union Baptiste d'être traité de fraudeur par les douaniers, c'est quand même extraordinaire. Je vous jure, monsieur, je suis pasteur, je vous jure, je suis honnête. Il dit, ouais, bah, vous pouvez jurer comme vous voulez, c'est pas le bon visa. Voilà. Et bah, résultat, on a été bloqué aux États-Unis pendant 5 mois. Et alors tu te dis, bon, bah, ok, j'ai quand même un gamin, il est en première et j'en ai une qui est en terminale. Donc il y a un truc, ça s'appelle le baccalauréat. C'est quand même important, non? Sachant qu'en plus, ils ont changé les règles et maintenant, c'est contrôle continu, c'est 2/3 de la note du bac. Et tu te dis, bon, la vie, elle est énigmatique pour moi, soit. Elle est énigmatique pour ma femme, soit. Mais qu'elle soit énigmatique pour mes enfants et qu'eux payent le prix de cette énigme, là, ça vient vous chercher différemment, vous comprenez? Alors je me suis dit, bon, je vais me tourner vers le CNED. Vous savez, le CNED. Le CNED, c'est cet organisme de l'éducation nationale en France qui vous permet de pouvoir étudier à distance. Ouais. Donc j'ai déposé la candidature le 15 juillet. Okay. On a franchi la frontière canadienne le 28 octobre. Le 29 octobre, ils étaient acceptés au CNED. 4 mois. Et tous les matins, je téléphonais. Je dis bonjour, oui, c'est encore moi, oui. Et pour les dossiers de mes enfants, on fait comment? Ils disent, c'est dans la queue. Il faut attendre, monsieur, il faut attendre. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? J'ai des adolescents, ils ont envie de travailler. Vous avez déjà vu, vous, des adolescents qui ont envie de travailler? Ça existe. Je vous donne 2 étudiants, ok, qui ont 17 de moyenne et ils veulent travailler. Et vous leur dites, c'est dans la queue, il faut attendre. Depuis le 15 juillet, madame. Oui, mais ça vient. C'est complètement énigmatique. Et tu te dis, c'est pas possible. On va pas s'en sortir. C'est quoi ton énigme? C'est quoi ton énigme? Est-ce que c'est problématique d'avoir des énigmes? Est-ce que c'est un signe de malédiction? Je pense pas. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière énigmatique, nous dit Paul. Mais alors, dit-il, nous verrons face à face, même si aujourd'hui je connais en partie, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que si la vie, elle est énigmatique, ta vie n'est pas une énigme pour Dieu. Ah ! Qui l'eût cru ? Comme j'ai été connu ! C'est-à-dire que Dieu me connaît dans mon énigme. Moi, je ne comprends pas, c'est énigmatique. Et je me dis, ben, c'est pas possible, Dieu n'est pas là. Non, lui, il me connaît, c'est marqué. On a la même version. Comme j'ai été connu. C'est-à-dire que depuis tout le temps, en fait, il connaît. Et ça veut dire que même si ta vie, elle est énigmatique, c'est pas une énigme pour Dieu. Ça veut pas dire qu'il va te donner la solution. Hein. Et ça veut pas dire non plus que la machine à laver va s'arrêter. Hein. Mais il connaît. Et ce soir, il te voit. Connaît ton nom. Et il te rappelle. Je te connais, je connais. Je vois ce qui se passe. Ton énigme, je la vois, je la reconnais. C'est pas une énigme pour toi, mais je comprends que ce soit une énigme pour toi. Et Paul conclut en disant, maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quand la vie est énigmatique, il n'y a que 3 choses. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est quoi? C'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. C'est le refus de l'immobilisme. Pour certains d'entre vous, la vie est tellement énigmatique que ce soir vous êtes scotché sur votre chaise et que l'idée même de mettre en application ce qu'on vous dit, c'est déjà too much. Il y a une vraie difficulté pour vous de vous projeter et de vous dire « Ouais, non, mais non, demain, je m'attends à demain. » Quand on n'est pas dans une démarche de foi, en fait, on est immobile. Parce que, en fait, la vie nous a lancé tellement de flèches, on est tellement tanné qu'on a juste envie de s'asseoir là et puis attendre que ça se passe. Puis l'espérance, c'est quoi l'espérance ? Ben, si la foi, c'est d'aller quelque part, l'espérance, c'est comment on y va ? L'espérance, c'est le refus du cynisme. Ce refus de se dire « Ouais, c'est bon, ok, je sais comment ça va se passer. » Ouais, c'est ça. L'administration, c'est bon. Ouais. Les profs, ouais, c'est bon. Et on développe en nous comme ça une forme de cynisme en se disant « C'est un refus d'espérance. » Et puis l'amour, c'est avec qui on y va. Si la foi, c'est où on va, si l'espérance, c'est comment on y va, l'amour, c'est avec qui on y va. C'est faire le pari de cheminer avec des gens avec lesquels on ne veut justement pas cheminer. Mais que Dieu continue à mettre sur notre route. C'est extrêmement pénible. Mais finalement, l'amour, c'est le choix de vivre l'amour et pas l'entre-soi. L'individualisme. La pandémie nous a tous affectés sur notre capital relationnel. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement extraverti. Et la pandémie a eu un effet chez moi où c'est de plus en plus compliqué pour moi d'être avec les autres. Comme si elle avait annihilé mon capital relationnel. Alors, je suis extraverti. Hein.
Je confirme.
Et je me dis, c'est pas normal. Mais c'est ça aussi un effet de la pandémie. Je préfère être dans ma chambre, tranquille, à lire mon petit Kindle. Puis Dieu dit non, tu prends ta voiture avec Christelle et puis tu vas là-bas, à l'autre bout du monde. Je viens de Montréal. Donc quand on sort de Montréal, c'est à l'autre bout du monde déjà. La foi, l'espérance et l'amour. Quand la vie est énigmatique et que la seule chose qui vous reste, c'est la certitude que Dieu connaît votre énigme, la seule chose qui vous reste, la foi, l'espérance et l'amour. Le refus de l'immobilisme, le refus du cynisme, le refus de l'individualisme. C'est ma prière, c'est notre prière pour vous ce soir. Que le Seigneur vienne vous consoler.
Amen.
Profondément. Profondément. Tu veux prier pour nous, Christelle ?
Oui. Prions. Seigneur, tu me connais. Même lorsque je suis certain de tout savoir, même quand je me dis, tant pis, passons à l'étape suivante. Ce problème se réglera peut-être. Même quand je me dis, il n'y a plus d'espoir. Tu me vois, tu me connais, tu connais mes jours d'hier et tu connais mon lendemain. Et par-dessus tout, tu veux que je marche avec toi. Ne permets pas, Seigneur, que ma main lâche la tienne. Ne permets pas que la réalité d'aujourd'hui se dresse comme un obstacle entre toi et moi. Ne permets pas, Seigneur, que je ne sois pas utilisé comme tu le désires. Ravive-moi par ton esprit, nourris-moi par ta parole, rappelle-moi qui je suis. Et je continuerai en ton nom. Amen.